Faut-il et comment réformer l'Europe pour la rendre plus démocratique, plus immédiatement compréhensible pour ses 450 millions d'habitants? Alors que la gauche unie pour les législatives envisage de désobéir ou déroger à certaines règles européennes pour rendre l'Union moins libérale, le président de la République a prononcé hier ce qu'il a appelé le serment de Strasbourg pour une Europe plus efficace et indépendante. Cela passerait par une réforme des traités, moins de décisions à l'unanimité des 27 membres pour éviter les blocages. Emmanuel Macron intervenait devant le Parlement de Strasbourg alors que s'achevait la conférence sur l'avenir de l'Europe, un exercice de démocratie participative comme l'époque semble le demander. 800 citoyens de l'Union ont travaillé avec des élus, des représentants de la société civile et ils demandent plus de moyens pour l'agriculture bio. Vous savez que la politique agricole est le principal poste de dépense européen. Ils veulent aussi le vote des 16 ans aux élections européennes et le Parlement européen avec la possibilité de proposer des lois et pas seulement les voter. Réformer l'Europe ou lui désobéir? Au carrefour de ces deux chemins, nos invités sont tous deux députés européens, de gauche, favorables à l'accord passé avec la France insoumise. David Cormand, ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, élu au Parlement de Strasbourg depuis 3 ans, et Nora Mebarek, membre du Parti Socialiste, élu elle aussi en 2019. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes en duplex depuis nos bureaux de Bruxelles. Merci à Pierre Benazé qui est à vos côtés et qui nous permet de vous entendre. Les auditeurs de France Inter peuvent dialoguer avec vous, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, la réforme de l'Europe, l'union des gauches, à quel prix avant les législatives? Voilà pour notre sujet. Question à tous les deux. David Cormand, peut-être d'abord, qu'est-ce qui manque à l'Europe aujourd'hui?
D'abord, ce qui lui manque, c'est d'être une démocratie achevée. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, qui n'a que quelques décennies, hein, qui a un peu plus de 70 ans, c'est un outil politique qui est très insatisfaisant d'un point de vue démocratique. Pourquoi ? Parce que les seules personnes qui sont directement élues pour s'occuper de l'Union européenne, c'est nous, c'est les parlementaires européens. Mmh. Le peuple européen, dans chaque pays, il élit des députés européens. Et quand on vote des trucs au Parlement européen, c'est pas nous qui décidons sur tout. À la fin, il y a une autre instance qui s'appelle le Conseil, et là, c'est les bons vieux États-nations. Mmh. Et eux, ils peuvent décider que ce qu'on a voté, ça s'applique pas. C'est pour ça que la Convention sur l'avenir de l'Europe, elle est intéressante, parce que vous voyez, par exemple, les citoyens, quand ils comprennent ça, et les 800 citoyens qui ont été tirés au sort, j'imagine qu'ils ont discuté de ça, ils disent, il faut une capacité d'initiative de la part du Parlement. Ça peut pas être que les États et que la Commission, c'est l'équivalent du gouvernement, oui, qui décident de qui et sur quoi on doit faire des lois.
Nora Mebarek, vous êtes d'accord avec cela? L'Union européenne, démocratie inachevée, on peut faire valoir qu'après tout, les gouvernements représentent aussi les populations, ils sont issus des élections législatives.
C'est vrai, mais comme vient de le dire David Cormand, il y a à la fois une démocratie inachevée et surtout une méconnaissance du fonctionnement de l'Union européenne parce que elle est assez opaque par l'ensemble des citoyens. Donc chaque 5 ans, les citoyens européens sont appelés à voter pour leurs parlementaires sur un projet. Et ce projet a des fois beaucoup de mal à se mettre en œuvre. On l'a vu encore la semaine dernière sur le vote, sur l'amendement contre le chalut, sur les fonds marins, où finalement les petites organisations et les petites négociations, conseil, commission et groupes politiques, aboutissent à quelque chose d'opaque et qui fait que les 800 citoyens tirés au sort, qui d'ailleurs c'était très, très intéressant cette démarche de tirage au sort parce qu'en fait on sortait de l'entre-soi, disaient, ont mis 3 mois à comprendre comment fonctionnait institutions européennes avant de pouvoir faire des propositions. Et donc, c'était très intéressant de voir à l'œuvre des citoyens qui, finalement, étaient encore plus demandeurs de démocratie, de transparence.
Ah ben allez-y, racontez-nous, parce qu'honnêtement, cette convention citoyenne, alors c'est très à la mode, la démocratie participative, mais cette convention citoyenne, elle était passée complètement sous les radars jusqu'à hier. Hein.
C'est vrai. D'abord, elle a été annoncée avant la pandémie par Emmanuel Macron et sur une volonté certainement de qui n'était pas liée à l'élection présidentielle, mais une vraie volonté de faire un projet européen et faire en sorte que les citoyens s'organisent. Mais quand on a été installé après le pic de la pandémie, eh bien la commission qui avait la charge d'organiser les tirages au sort ne savait pas trop faire, parce que nous on a un savoir savoir-faire français avec la démocratie participative. C'est pas une obligation au niveau européen et encore moins sur des boîtes de consultants américaines hein, qui donc s'est chargée du tirage au sort. Et donc pendant les 3 premiers mois de la conférence, on a été installé en septembre et les citoyens nous ont déjà rejoints au mois de novembre.
D'accord.
Donc, ça c'est déjà la difficulté du décalage. La deuxième chose, c'est que les citoyens de tirage au sort pouvaient ou pas évidemment venir. Troisième élément, c'est qu'on est reparti dans une crise sanitaire qui fait que on a enlevé toute la partie d'interactivité dans les groupes de travail puisque tout se passait en visio et que évidemment c'était moins intéressant et moins suivi et en tout cas moins attractif pour les citoyens. Et puis j'en finis par là, pardon, mais quand on est un citoyen tiré au sort et qu'on arrive dans un groupe de travail où il y a des parlementaires nationaux, des sociétés civiles qui sont souvent des porteurs, des lanceurs d'alerte, des porteurs de cause, mais qui ont les moyens de les porter, des parlementaires européens, des membres de la Commission, des membres du Conseil, eh bien on est un citoyen qui est vide, c'est-à-dire qu'il n'a pas de plateforme technique, il n'a pas de collaborateurs, oui. Il n'a pas de moyens pour pouvoir à un moment donné travailler de manière très autonome et du coup ça aussi explique le fait que les citoyens sont méritants.
Voilà quelques enseignements de la démocratie participative. David Cormand, rapidement, ces propositions là de la Convention citoyenne, par exemple le vote des 16 ans, ça va devenir quoi? Parce qu'on a reproché par exemple à la Convention sur le changement climatique de ne pas être reprise intégralement. Là, les propositions elles vont devenir quoi?
Écoutez, là, au niveau en France, c'était une volonté politique qui fait que ça s'était pas traduit. Là, il y a deux types de propositions. Il y a des propositions qui nécessitent un changement des traités et il y a des propositions qui nécessitent pas forcément un changement des traités. Pour ce qui relève pas des changements des traités, c'est comme en France, c'est la volonté politique. Faut que les instances qui vont décider, le Conseil, je pense que le Parlement européen, il est chaud. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment voté, il a même voté la semaine dernière une initiative pour commencer à discuter du changement des traités. Ceux qui résistent, c'est la Commission. Parce que ils ont des habitudes de travail, c'est pas qu'ils sont méchants si vous voulez, mais ils ont des habitudes de travail, ils aiment pas trop qu'on vienne tripatouiller dans leurs affaires. Et il y a le Conseil où là c'est le pouvoir des États-nations, les bons vieux États-nations, qui eux considèrent que au fond l'Europe c'est aussi à eux. Donc vous voyez, il y a une tension dans les rapports de force, dans les pouvoirs, qui font que c'est compliqué. Vous avez dit tout à l'heure que les chefs d'État, ils étaient élus pour s'occuper de l'Europe. Oui et non. Quand vous votez aux élections françaises, en vrai, vous trouvez qu'on a beaucoup parlé d'Europe. Et pourtant, on présidait l'Europe pendant cette élection présidentielle. Les gens, ils votent pas pour ça. Le seul moment où ils votent pour les européennes, c'est au moment des élections européennes. Et dans toute démocratie normale, vous votez pour les parlementaires et après, ils nomment un gouvernement qui est responsable devant la représentation parlementaire. Enfin, c'est le truc classique. Là, c'est pour ça que je parlais de démocratie inachevée. C'est qu'on est dans un truc intermédiaire. On n'a pas encore fait le saut fédéraliste qui permettrait de faire plus de démocratie. Donc, il y a des trucs qu'il faut faire. C'est la liste transnationale. Ça, c'est très bien. Parce qu'il y aura quelques députés qui seront élus au niveau transnational, au niveau européen, et ça leur donnera une légitimité, les têtes de liste de ces listes, démocratiques, pour dire ça sera pas un tripatouillage pour savoir qui présidera la commission.
Allez,
ça sera des gens là.
Je voudrais qu'on aborde les autres sujets, David Cormand. Du coup, quand Emmanuel Macron dit hier devant les parlementaires à Strasbourg, faut réformer les traités, vous applaudissez?
Oui, il faut réformer les traités, mais enfin, c'est pas le premier à le dire. Les écologistes, ça fait 30 ans qu'on le dit. Les gens de gauche, ça fait des années qu'ils le disent. Tout le monde sait, à part ceux qui sont les plus libéraux, que ces traités posent des problèmes. Et d'ailleurs, ils sont même plus applicables. Regardez, depuis la crise du Covid, on s'est assis dessus. Parce que c'est le réel, c'est quand on se cogne. Donc on est toujours soumis à des règles idéologiques, en réalité. C'est pas des règles qui sont...
Mais quelles règles? Soyez concrets. Quelles règles, par exemple, ne sont plus applicables aujourd'hui?
Les 3%. Le traité budgétaire des 3%, elles n'ont pas été, heureusement, appliquées.
Donc l'Europe sait faire preuve de souplesse, peut-on vous dire?
Mais oui, mais il faut qu'elle se soit permanente, que ce soit pas lié à une crise pandémie mondiale qui tout d'un coup nous met en situation de difficulté telle que on déroge au traité budgétaire. L'Europe n'est pas là pour empêcher le progrès social, le progrès environnemental, le progrès climatique. Il doit s'adapter et l'Europe l'a fait pendant la pandémie. Et donc les institutions doivent s'adapter aux réalités d'aujourd'hui.
Et
les réalités d'aujourd'hui, elles sont portées. Et pardon, j'en finis par là. Quand on lance une consultation citoyenne, vous disiez où ça va aboutir, eh bien c'est très dangereux de penser que ça peut aboutir à rien. Et je le dis ici à votre micro, comme je le dis depuis des mois et des mois, on réunit une conférence, on demande à cette conférence, à ces gens de travailler. Les panels de citoyens se réunissent, travaillent dans les conditions que je vous ai rappelées tout à l'heure. Et la première chose dont ils sont à peu près unanimes, avec le Parlement et soutenus par le Parlement la semaine dernière, c'est la révision des traités. Parce que si on ne veut pas déroger, il vaut mieux réviser pour mieux d'environnement, pour mieux de protection de la planète et pour mieux de progrès social.
Nora Bebarek, David Cormand, avant d'entendre Alain au standard, dans l'accord de la gauche unie, il est question, alors l'accord avec les socialistes de déroger à certaines règles, l'accord avec les écologistes de désobéir à certaines règles. Désobéir à qui et à quoi précisément ?
Nous, ce qu'on a mis dans cet accord, c'est d'abord, un, quand on est écolo, désobéir, c'est pas la fin du monde. On l'a fait quand il y a les champs d'OGM, on l'a fait à Notre-Dame-des-Landes, et donc c'est la vie. Quand vous voulez faire évoluer les choses, si vous faites béni oui-oui à tout, vous bougez rien. Là, en l'occurrence, on parle d'autre chose. On parle éventuellement des traités européens. C'est pour ça que dans notre accord, on a mis dans le respect de l'état de droit. C'est quoi l'état de droit ? C'est la hiérarchie des normes. Ça veut dire que vous respectez le fait que le droit européen est supérieur au droit français. Et sur la désobéissance, ce qui a l'air d'exciter tout le monde. Je vous le dis à vous, parce que c'est vous qui nous interrogez.
Oui, et parce que certains y voient en fait une façon de défaire l'Europe petit à petit.
Mais non, mais le problème, c'est que ce qui défait l'Europe, un, c'est le statu quo. Deux, aujourd'hui, la France désobéit aux règles européennes. Quand on respecte pas les règles de qualité de l'air, on est pénalisé, sanctionné par l'Europe. Donc Emmanuel Macron, il désobéit à l'Europe sur les questions de pollution de l'air. Il désobéit à l'Europe sur les questions des chasses cruelles. Il désobéit à l'Europe sur un certain nombre de sujets. Là, récemment, sur les règles en matière d'agriculture. Et le ministre de l'Agriculture actuel, monsieur de Normandie, dit « Ah bah ça, moi, je vais pas le respecter ». Donc vous voyez bien que la question de mettre un rapport de force quand vous êtes la France, c'est nécessaire. Et là-dessus, je voudrais dire une chose.
En un mot, parce que je voudrais qu'on aille au standard.
Ouais, depuis 2005, il y a un schisme dans la gauche française depuis le non sur le TCE.
Ce schisme traité constitutionnel, le non référendum de 2005.
Celles et ceux qui nous écoutent se rappellent peut-être. Ouais. Où, au fond, on a laissé d'un côté la gauche déchirée entre ceux qui étaient devenus eurosceptiques et ceux qui apparaissaient peut-être trop béni oui-ouistes. Et là, aujourd'hui, on fait une nouvelle synthèse qu'Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs, avait fait en 2009 avec Dany et José. Entre eux, où c'est la gauche et l'écologie française qui est de retour en Europe. On dit, nous, la France, grand pays européen, on veut peser pour faire progresser l'Europe, y compris en mettant un rapport de force. C'est ce volontarisme-là qu'on est en train de faire dans cette synthèse qui me paraît dynamique. Alain, donc je pense que, et aujourd'hui, ceux qui râlent, c'est ceux qui sont les partisans du statu quo, en grande partie.
Alain, au standard de France Inter. Alain, bonjour.
Oui, bonjour aux deux députés. Alors, moi, je m'intéresse à l'argent et je vois que les députés n'en parlent pas beaucoup. Que pensez-vous de la gestion de la BCE vis-à-vis des dettes des différents États, et notamment celle de la France, qui est de très loin la plus endettée, hormis la Grèce, évidemment. Et quel contrôle politique en avez-vous, vous, au niveau de l'Europe? Et éventuellement, vous pouvez, si vous avez le temps, parler de la transition écologique, dont l'emprunt qui est prévu va encore augmenter cette dette.
Alors, on va rester sur la dette, si vous le voulez bien. Qui veut répondre? Est-ce que la dette française est un problème pour vous, député européen?
Non, mais non. En fait, la dette, c'est ni un totem, ni un tabou. Ce dont on nous parle,
115% et des taux d'intérêt qui remontent, hein, c'est ça le contexte.
Oui. La Banque Centrale Européenne, elle est dite indépendante. Donc en fait, pour répondre à Alain, le pouvoir politique, c'est d'ailleurs un sujet parlementaire, démocratique, n'a pas de contrôle sur la Banque Centrale Européenne. Néanmoins, la Banque Centrale Européenne, elle a ce que l'on appelle un mandat. Le mandat, il est décidé par les différentes institutions pour dire « voilà ce qu'on vous demande de faire ». Parce qu'elle est indépendante, mais elle n'est pas apolitique, la Banque Centrale Européenne. Mmh. Elle a des avis sur comment il faut gérer l'économie. Ah, c'est pas le Saint-Esprit qui décide des trucs. Donc en fait, il y a des mandats. Et donc nous, ce qu'on demande, y compris dans l'accord que l'on a, c'est de renégocier le mandat de la BCE pour que ce soit pas seulement aujourd'hui, comme aujourd'hui, un critère par rapport à l'inflation, vous parlez des taux qui remontaient, mais aussi des critères en matière sociale, en matière environnementale et en matière de transition. C'est-à-dire qu'il y a des critères aussi politiques. Et de ce point de vue-là, la dette, ce qu'on appelle la dette, il y a plein de façons de la gérer, notamment de la faire rouler. La banque centrale et l'euro, c'est une monnaie qui suscite une grande confiance. Donc vous pouvez construire de la monnaie pour rembourser votre dette. Mais plus important, parce que Alain a raison de dire qu'il faut qu'on parle d'argent, c'est qui paye. Et moi, il faudrait pas qu'Alain y pense et que les gens qui nous écoutent pensent qu'on va résoudre le problème uniquement par la dette. Il faut faire payer les riches. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est
David,
qu'aujourd'hui,
comment
avec les gilets jaunes, c'est les contribuables captifs qui payent. Or, aujourd'hui, l'Europe, elle a la masse critique pour faire payer la taxe sur les transactions financières.
Je voudrais garder quelques secondes parce que vous êtes à distance, c'est pas facile. Pour une dernière question à Nora Mebarek, il y a eu cette tribune de trois anciens députés européens, Bessé, Bové, Cohn-Bendit, sous couvert d'un pseudo non-alignement renvoyant dos à dos agresseurs et agressés dans le conflit ukrainien. Il s'adresse à tous ceux qui ont signé avec LFI. Vous avez signé un accord avec ceux qui cultivent l'ambiguïté à l'égard des valeurs démocratiques. Voilà, en pleine guerre en Ukraine, est-ce que vous êtes pas mal à l'aise d'avoir signé un accord avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui est pas très net vis-à-vis de l'OTAN, par exemple?
Alors non, je suis pas du tout mal à l'aise parce que dans tout rassemblement, coalition, appelez-le comme vous voulez, il y a plein de convergences, ce qui a été rappelé tout à l'heure et par mon collègue et par moi, et puis quelques divergences. En ce qui concerne l'Ukraine, moi pour ma part, j'ai voté l'ensemble des aides et soutiens à l'Ukraine et je continuerai. Et en ce qui est de... pour quitter l'OTAN, je crois qu'il y a une nuance à apporter, notamment dans ce moment particulier. Il me semble inenvisageable d'en débattre et encore moins de sortir de l'OTAN.
En tout cas, c'est pas un sujet assez important de votre point de vue pour faire rupture.
Ce n'est pas un sujet assez important pour faire rupture. Quand on a un projet politique qui le 19 juin prochain sera ou protecteur pour les retraites, pour le pouvoir d'achat, pour le minimum vieillesse, pour les jeunes, pour la prise en charge de la transition écologique face à une politique qu'on connaît déjà et qui va en plus augmenter en termes de d'agressivité pour les plus fragiles et les plus faibles. Donc le peuple a parlé, je crois, et comme on est très démocrate, notamment au Parlement européen, mais pas que, les Français sont démocrates, ils ont parlé au premier tour de l'élection présidentielle.
Merci.
Et demain le débat sera là.
Et
voilà.
Ils parleront législative également.
Exactement.
Merci beaucoup à tous les deux et merci à Pierre Benazet qui nous a permis de vous entendre depuis Bruxelles.